La lumière grise de l'aube n'éclaire pas tellement. Je donnerais n'importe quoi pour un véritable rayon de soleil sur ma peau. La douce brûlure me manque. Ici, rien ne m'éblouit, plus jamais. Le gris a tout envahi, tout recouvert, tout annulé. Les murs, les draps, la couverture, ma blouse, ma tête.
Posté dans l'entrée du salon où les lourdes tentures tirées ne laissent pénétrer qu'un filet de lumière tamisée, Alexandrine est découragée. Pourquoi ce matin plutôt que la veille ou le lendemain? Elle n'a pas d'explication. Elle sait seulement qu'en quittant son lit, une incroyable pesanteur s'est emparée de ses membres. Sa nuque ploie sous le poids de la charge qui l'attend. Pourtant, elle lutte. Elle ne fait que cela. Mais la montagne qu'elle gravit chaque jour depuis près de 20 ans lui paraît plus haute que d'habitude. Alexandrine est épuisée. Elle se dérobe. Elle flanche. L'admettre la tue. Mais elle ne sait plus où puiser l'énergie qui l'a maintenue debout tout ce temps. Elle voudrait pouvoir s'allonger. Elle rêve que sa vie se dissolve et disparaisse. Il n'y a plus assez d'envie en elle pour tenir encore. Elle est si lasse. Ce matin, son corps a refusé d'accepter. Elle en ignore la raison, mais en connaît bien la cause. Tapie dans l'ombre du salon, elle sait la silhouette affaissée de Blaise, tête penchée en avant, dans son fauteuil d'infirme. Cette nuit, elle n'a pas pu dormir. Ça la questionnait, perturbait. Elle ne pensait qu'à ça. À ses côtés, son homme ronflait. Elle ne l'a pas réveillé. Il n'a rien su de son insomnie. Il aurait dit quoi? Elle n'a pas osé. Ça la chiffonne encore davantage. Il ne la connaissait même pas, la petite Mariette, jamais vue. Pourquoi lui en parler? C'est vrai. Simplement partager, ça l'aurait soulagée. Quand elle avait su, ça lui avait fait un coup. C'est Madame Massin qui le lui avait dit. Sans méchanceté, elle n'est pas méchante. Non, quand même, mais ça fait toujours un choc, c'est sûr, ce genre de nouvelles. La veille encore, elle avait vu la petite, debout sur le tabouret noir, épousseter le lustre des pampilles, magnifique. Ça tintait une merveille. Mariette, bras en l'air, tête dans le cristal, tout sourire, ravie du carillon, au passage du plumeau, dans les pendeloques. Elle s'était dit, cette gamine n'en a pas trop des occasions de sourire, de voir, d'entendre du beau, du pur, du cristallin. Le lendemain, elle était morte, pendue, dans sa chambrette. On avait retrouvé le tabouret noir renversé au sol sous les toits. Madame avait raconté, donné les détails, horrifié. Un fait divers affreux. La police était venue. Un inspecteur, de longues moustaches, un air doux. Il fallait bien quelqu'un pour aller ouvrir la porte, faire le café, débarrasser les vestes. Avant, c'était Mariette, mais puisque Mariette... Alors, elle en avait été chargée, ce jour-là, au lieu de laver les sols, le damier de l'entrée. Elle avait répondu aux policiers. Il n'était pas resté longtemps. Il avait refusé le café, mais englouti les madeleines. Mariette aussi les aimait. Eugénie le lui avait raconté en pleurant. Elle avait l'habitude d'en mettre de côté pour la gamine. Pourquoi, mais pourquoi elle a fait ça? Elle le savait bien. Pourquoi? Elle ne l'a dit à personne, surtout pas aux policiers. Il devait savoir aussi, elle a pensé, mais que faire? De cette information. Monsieur est haut placé. La soubrette qui se pend ne doit pas faire de tort. L'inspecteur avait remercié pour les madeleines, il avait refermé son carnet, fait le baise-main à madame. Faut bien comprendre qu'elle n'y est pour rien, madame. Ce n'est pas de sa faute, si monsieur est comme ça, disait Eugénie en reniflant. Avec ses grosses joues grasses, sa grosse croupe,
Il ne touche pas à la cuisinière. Mariette n'avait pas eu cette chance. Toute la maison le savait, personne n'avait rien dit, surtout pas aux policiers.
Mais les nuits suivantes, pas moyen de dormir.
Son homme, s'il avait été au courant, il aurait déclaré que c'était pas ses affaires, que ses horaires matinaux la protégeaient, que le sale type ne la croisait jamais, que c'était tant mieux, pour elle comme pour lui. S'il s'avisait de la toucher, il lui réglerait son compte à ce patron. Que la petite n'avait pas eu de chance, que personne n'était là pour la protéger, qu'elle était sûrement enceinte, que ce serait ni la première ni la dernière, qu'ils avaient besoin de ce salaire, qu'elle avait bien fait de se taire, qu'il fallait dormir. Elle ne lui a rien raconté. Elle ne voulait pas entendre ça. À son retour, elle fait semblant de dormir. Maintenant, elle ne veut plus y penser. Elle arrive enfin chez les Daniel. Ici, aucun risque. Monsieur est en fauteuil roulant. Un estropié, un mutilé de guerre, une gueule cassée, des décorations plein la poitrine. Ses jambes de pantalon flottent au-dessus du sol depuis 20 ans. Il ne lui parle jamais, pas directement, seulement à sa femme. Elle seule le comprend, elle traduit pour elle. Il reste dans le salon, transformé en chambre d'impotent. Posté à sa fenêtre, il regarde dehors les gens passer. Eux, ils marchent, ils cheminent, pressés ou pas. Emmitouflés, ils traînent derrière eux leurs chiens, leurs enfants. Ils ont les bras chargés de leurs achats. Parfois, un enfant tombe, sa mère le relève, le console, le prend dans ses bras. Eux n'en ont pas eu d'enfants. Elle se demande si c'est à cause de ça. Elle suppose. Ici, personne ne raconte rien. Pas de cuisinière, pas de cocher, seulement elle. La boniche, qui fait tout, la bonne à tout faire. Le ménage, les repas chauds le midi, froid pour le soir. Madame s'occupe elle-même du café le matin. Ça l'arrange bien pour les horaires, comme ça, elle arrive plus tard. Monsieur mange peu. C'est difficile. Ils ne reçoivent jamais. La maison sent la tristesse. Même si madame est gentille et pas tellement vieille. De toute façon, trop jeune pour s'enterrer vivante auprès d'un demi-homme. Elle y pense à chaque fois qu'elle entre ici. Elle a commencé le mois dernier. Il n'y a qu'une entrée. La même pour les maîtres et la bonne. Parfois, c'est madame elle-même qui vient lui ouvrir. Pourtant, elle a sa clé. C'est comme si madame l'attendait. Elle se parle à peine. Quelques banalités, les instructions du jour. Il faut beaucoup de régularité. Monsieur déteste les changements, les imprévus. Madame lui donne aussi la liste des courses, des corvées. Une fois, madame a regardé le panier. Elle a deviné qu'il pesait trop. Elle s'est exclamée, la presque plainte. Ça l'a gênée. Elle déteste ça, la pitié, la charité, la compassion. Ça ne nourrit personne. Ça ne rend pas le panier moins lourd. Elle n'a rien dit, mais madame a senti qu'elle était allée trop loin. Cela ne s'est jamais reproduit. La boniche reste à sa place, la patronne aussi.
Blaise sait bien comme Alexandrine le regarde. Il a mal pour elle. Au-delà de sa propre douleur, il devine la sienne, bien qu'elle soit dissimulée, avec une rare expertise. Il voit tout. Ce pli de contrariété qu'elle ne parvient pas à défaire, ses cernes persistants, le poids qui charge ses épaules, la lassitude de sa physionomie. Sans même qu'elle en ait conscience, lui décèle ses signes, aussitôt qu'elle se montre le matin dans l'embrasure de la porte du salon qui lui sert de chambre. Alexandrine veut tout cacher, surtout à elle-même. Elle offre à son mari douceur et sourire, semble ravie de ce qu'il lui impose. Il se dégoûte. Depuis son poste d'observation, il fait mine de regarder dehors, mais ne voit rien du paysage enneigé qui s'étend devant la fenêtre. Tous les sons lui parviennent étouffés. Des enfants courent et glissent en silence sur le sol gelé, emmitouflés dans de lourds châles tricotés par leur mère qui les suit. En avançant prudemment pour ne pas tomber.